France Culture.
On fait le point sur l'information, c'est le journal de la rédaction avec Anne Fauquemberg. Rebonjour Anne.
Bonjour Marie, bonjour à tous. Trois ans jour pour jour après le début de l'invasion russe en Ukraine, une grande partie de ce journal est consacrée aux difficiles négociations pour mettre fin au conflit. De nombreux dirigeants européens sont à Kiev ce midi. Il s'agit de marquer un soutien fort à l'Ukraine à l'heure où le rapprochement des États-Unis avec la Russie menace l'avenir du pays et la sécurité de l'Europe. Nous serons à Kiev, puis nous irons à Berlin où le vainqueur des élections législatives, le conservateur Friedrich Merz appelle l'Europe à renforcer la défense européenne. En Ukraine, les Russes contrôlent 20% du territoire. Les rapports de force semblent figés, mais les pertes russes sont énormes. Nous ferons point également sur la situation des belligérants. Quelle est la situation aussi des exilés ukrainiens en Europe? Nous l'évoquerons avec la professeure de sciences politiques Dorota Dakovska, invitée de ce journal. Enfin, en France, plusieurs associations de médecins et collectifs féministes se sont rassemblés devant le tribunal judiciaire de Vannes ce midi. Il s'agit de dénoncer l'inaction de l'ordre des médecins à l'occasion de l'ouverture du procès Le Squarneck, l'une des plus grandes affaires de pédocriminalité jamais jugée en France. Volodymyr Zelensky salue la résistance et l'héroïsme de son pays. 3 ans, jour pour jour, après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Le président ukrainien, qui accueille aujourd'hui à Kiev plusieurs dirigeants européens et occidentaux, demande aussi l'échange de tous les prisonniers de guerre avec la Russie avant de commencer un dialogue visant à mettre fin à la guerre. L'Union européenne, toujours sonnée par le rapprochement des Américains avec les Russes, tente de faire pression sur Moscou. Les ministres des Affaires étrangères ont annoncé un 16e train de sanctions contre la Russie ce matin, Agathe Mahué.
Et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, annonce en parallèle ce midi une nouvelle aide de 3,5 milliards d'euros à l'Ukraine, car cette guerre, dit-elle, reste la crise la plus lourde de conséquences pour l'avenir de l'Europe. Son intervention applaudie tout à l'heure lors de ce mini-sommet à Kiev, une douzaine de dirigeants européens autour de la table ou qui interviennent à distance. Une alerte aérienne d'ailleurs a retenti au moment où débutaient leurs entretiens. Ursula von der Leyen affirme aussi que la capitulation de l'Ukraine est toujours l'objectif de Vladimir Poutine, qui entend conclure un accord de paix en ne s'adressant qu'aux États-Unis. D'où ce message réitéré par Volodymyr Zelensky à ses alliés européens.
L'Ukraine doit être à la table des négociations avec l'Europe, car la cible stratégique de la Russie, c'est l'Europe et le mode de vie européen. Par conséquent, sa sécurité et le destin de l'Europe ne peuvent être déterminés sans l'Europe. L'Ukraine, l'Europe et les États-Unis doivent être ensemble à la table des négociations contre la Russie pour que ce besoin de paix ne soit pas éclipsé par de simples promesses de stabilisation, de nouveaux départs et de réconciliation.
Et les dirigeants européens et occidentaux se relaient désormais pour réaffirmer leur engagement en faveur de l'Ukraine. Le président polonais a pris la parole, les dirigeants des pays baltes, la France est là aussi, représentée par son ministre de l'Europe, Benjamin Haddad, jusqu'au premier ministre canadien Justin Trudeau. Des messages d'unité pour tenter de faire face à la nouvelle rhétorique pro-Moscou de Donald Trump.
Agathe Mahué, envoyée spéciale de France Culture à Kiev. L'Union européenne espère par ailleurs que le nouveau gouvernement allemand issu des élections législatives soit formé aussi rapidement que possible. Les tractations commencent pour le conservateur Friedrich Merz, dont le camp CDU-CSU a remporté la victoire hier soir aux élections législatives. Les négociations s'annoncent compliquées alors que l'AfD, le parti d'extrême droite avec ses quasi 21% des voix, atteint un score sans précédent. Bonjour Louise Baudet.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
Vous êtes en direct de Berlin, sans gouvernement pour l'instant. Friedrich Merz affiche toutefois sa priorité, le renforcement de la défense européenne.
Eh oui, Emmanuel Macron aurait-il trouvé un partenaire? Son idée d'autonomie stratégique européenne n'avait jusqu'ici pas soulevé l'enthousiasme des gouvernements allemands, conservateurs comme sociaux-démocrates. L'arrivée au pouvoir de Friedrich Merz, associée au coup de boutoir de Donald Trump contre le lien transatlantique, pourrait singulièrement changer la donne. Le renforcement de la défense européenne est une priorité de longue date du chef de file des conservateurs qui diagnostiquait fin janvier une rupture d'époque et appelait les Européens à prendre leur sécurité en main. Le discours de J.D. Vance à Munich il y a 10 jours a encore accéléré la prise de conscience comme une seconde Zeitenwende, ce tournant historique engagé par Olaf Scholz au commencement de la guerre en Ukraine. 100 milliards d'euros pour financer la défense allemande. Changement de cap soutenu par Friedrich Merz. Alors face au désengagement américain, le futur chancelier veut passer à la vitesse supérieure. Ses deux premiers déplacements à l'étranger seront d'ailleurs pour Paris et Varsovie, principales armées de l'UE. Mais serrer les rangs entre Européens à un prix, faudra-t-il sacrifier le frein à l'endettement, règle inscrite dans la Constitution allemande ? Friedrich Merz n'y semble pas encore tout à fait prêt.
Merci Louise Baudet pour vos précisions en direct de Berlin. Emmanuel Macron est arrivé la nuit dernière à Washington dans un contexte donc plus que tendu. Les États-Unis veulent en effet soumettre cet après-midi à l'Assemblée générale de l'ONU et au Conseil de sécurité un texte réclamant une fin rapide du conflit en Ukraine sans référence à l'intégrité territoriale du pays. Le président français devrait détailler le plan de forces militaires communes qu'il pourrait engager avec le Royaume-Uni pour fournir des garanties de sécurité dont l'Ukraine a besoin. Et il entend capitaliser aussi politiquement sur ce déplacement, Claude Guibal.
Emmanuel Macron, on le sait pour l'avoir déjà côtoyé, Donald Trump sait se montrer imprévisible et face à l'axe qui se dessine entre Washington et Moscou, le président français entend dire à Donald Trump qu'il ne peut y avoir de règlement de paix en Ukraine sans que l'Ukraine elle-même ni l'Europe ne soient à la table des négociations. Il va pour cela apporter des réponses à Washington qui, la semaine dernière, avait envoyé une lettre aux pays européens pour leur demander ce qu'ils étaient prêts à faire pour participer à garantir la sécurité de l'Ukraine. Sujet sur lequel émerge une proposition franco-britannique, l'idée d'un déploiement de 30 000 hommes maximum dans le cadre d'un cessez-le-feu, une force essentiellement aérienne et maritime, très peu d'hommes au sol, stationnés à distance de la ligne de front. Une proposition que Keir Starmer, le Premier ministre britannique, doit développer lors de sa visite à la Maison-Blanche jeudi, une visite annoncée avant celle d'Emmanuel Macron, une proposition qui doit s'accompagner d'un backstop, un soutien des Américains suffisamment important pour être dissuasif face aux ambitions russes.
Les explications de Claude Guibal. De son côté, le Kremlin accuse l'Europe de vouloir la poursuite du conflit et affirme que la Russie ne cessera les combats en Ukraine que lorsqu'elle aura obtenu ce qu'elle veut des négociations. La Russie dénonce par ailleurs un acte terroriste au consulat de Russie à Marseille. Ce matin, les démineurs ont maintenant terminé leur intervention. 3 bouteilles de soda en plastique ont été envoyées dans les jardins du consulat. 2 d'entre elles ont éclaté, générant des détonations. Aucun blessé ou dégâts ne sont à constater, selon la préfecture de police. Dans ce conflit entre l'Ukraine et la Russie depuis 3 ans, près d'1 million de personnes, civiles et militaires, ont été tuées ou blessées dans les deux camps. Alors, quelle est la situation sur les fronts? Où en sont les belligérants? Les précisions d'Éric Biegala.
Si la situation générale semble figée, ça ne veut pas dire que les affrontements se sont calmés. Bien au contraire, l'armée ukrainienne et l'armée russe sont au contact chaque jour, chaque nuit, et les petites offensives tactiques des deux camps sont quotidiennes. Le front s'étend sur plus de 1000 km. Les Russes contrôlent 20% du territoire ukrainien et sont toujours à l'offensive, comme l'explique le général Rodolphe Hardy, le numéro 2 du commandement du combat futur de l'armée de terre, dont l'observatoire des conflits est justement chargé de regarder précisément où en sont les belligérants.
On ne voit pas tout. J'insisterai toutefois sur une armée qui, depuis 1 an maintenant, a décidé de s'organiser en défensive, qui est face à une armée russe en offensive. Et ce qu'on constate depuis 1 an, on voit en fait globalement une ligne de front qui se stabilise et des grignotages territoriaux successifs.
Les Russes à l'offensive, cela veut dire que la dynamique de la guerre est de leur côté. Quant au grignotage du terrain, c'est surtout dans l'est de l'Ukraine qu'on l'observe, dans le Donbass.
Cela veut-il dire, Eric, que l'armée russe, lentement mais sûrement, est en train de remporter la partie, voire de gagner la guerre ?
Difficile à dire. L'armée russe lance vague d'assaut sur vague d'assaut, mais sans pouvoir concentrer ses forces. Concentration de force désormais quasi impossible du fait de l'omniprésence des drones d'attaque. Et les pertes russes sont énormes. Au moins 1000 hommes mis hors de combat tous les jours depuis octobre, jusqu'à 1500 tous les jours en janvier dernier. C'est bien plus que ce que la Russie peut mobiliser pour les remplacer. Difficile d'imaginer qu'elle pourra tenir ce rythme dans la durée.
Et l'Ukraine a encore revendiqué une attaque de drone ce matin, attaque qui a provoqué un incendie sur le site d'une raffinerie de pétrole à Riazan, au sud de Moscou.
L'invasion de l'Ukraine par la Russie il y a 3 ans a aussi provoqué la plus grande crise de déplacement de population depuis la Seconde Guerre mondiale.
Près d'un tiers des habitants de l'Ukraine ont été contraints de fuir leur domicile. Fin juillet dernier, le Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés, le HCR, recensait plus de 6 millions de réfugiés ukrainiens à travers l'Europe. Pour en parler, nous sommes avec Dorota Dakovska. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur des universités, agrégé de sciences politiques et membre du projet Exil-Est, projet de recherche sur les exilés ukrainiens, notamment après l'invasion de l'Ukraine. Pour commencer, peut-être rappelons qu'en mars 2022, l'accueil des réfugiés ukrainiens s'est organisé de façon coordonnée à l'échelle de l'Union européenne. Pour la première fois, le dispositif dit de la protection temporaire prévu par le droit européen a été déclenché. Cela a-t-il permis de faciliter l'arrivée de cette population dans l'Union ?
Oui, c'était un cadre européen précieux et activé effectivement pour la première fois, puisqu'il permettait à ces personnes exilées de bénéficier d'un droit de séjour, d'un droit de travailler, d'un accès facilité au logement, d'une aide sociale, aide médicale et de l'accès à l'éducation. Donc on peut parler d'un cadre à peu près cohérent dans tous les pays de l'Union européenne.
Quels pays ont choisi les Ukrainiens majoritairement ? Selon quels critères ?
Le premier critère, c'est la proximité, je dirais, et aussi la présence d'une communauté ukrainienne qui est déjà là. Et donc, évidemment, c'était déjà les pays frontaliers de l'Ukraine lorsqu'ils fuyaient les bombardements, notamment la Pologne, mais aussi d'autres pays frontaliers. Ensuite, plus tardivement, ils sont allés beaucoup aussi en Allemagne. Et la France, bien sûr, n'est pas le pays le plus proche. Et donc, la France a accueilli environ 100 000, un peu plus d'abord, aujourd'hui un peu moins, de ces exilés ukrainiens, mais moins quand même que des pays comme l'Espagne ou l'Italie.
Dans vos travaux, vous avez comparé plusieurs modèles d'accueil de ces réfugiés ukrainiens, notamment ceux de la France et de la Pologne. Pourriez-vous nous décrire les différentes approches ?
Oui, ce qui était intéressant dans le cas de la France, par exemple, c'est l'initiative d'un guichet unique dans les préfectures, réservé à ces exilés ukrainiens qui, effectivement, arrivaient dans ce contexte d'urgence. Et c'est une expérience intéressante parce qu'elle permettait de regrouper différents services, de les aider aussi pour le logement, pour des cours de langue, pour l'accès à l'aide médicale. En Pologne, l'accueil reposait sur une mobilisation citoyenne très massive, soutenue par l'État financièrement. Alors qu'en France, ce que l'on privilégiait, c'était plutôt un accueil collectif, d'abord dans des gymnases, un accueil d'urgence, puis éventuellement dans des anciennes écoles, des anciens EHPAD. Mais on a pu voir aussi que les autorités publiques se sont appuyées par moments, pendant quelques mois, sur un accueil citoyen qui a finalement été aussi utilisé en appui.
Madame Dakowska, quels sont aujourd'hui les indicateurs qui permettent d'évaluer le degré d'insertion de ces exilés ukrainiens dans les sociétés de leur pays d'accueil ?
Cette insertion varie, notamment en fonction de la barrière de la langue. Ce qui est intéressant, c'est que dans le cas de la Pologne, le taux d'emploi des femmes ukrainiennes est le même que le taux d'emploi des femmes polonaises. Et c'était le cas assez rapidement, en fait. C'est assez impressionnant. Ce n'est pas possible en France en raison de la barrière de la langue. Il est très difficile d'accéder à de nombreux emplois si on ne parle pas bien la langue. Mais ce taux d'emploi continue à augmenter parce que ces personnes ont bien entendu besoin de travailler.
Les conditions d'accueil des réfugiés semblent fragilisées aujourd'hui. En Pologne, par exemple, le Premier ministre a déclaré qu'il pourrait durcir les règles de la distribution des allocations pour les enfants. Et la Croix-Rouge a alerté il y a quelques jours, certains réfugiés pourraient être même poussés à rentrer dans des zones dangereuses par nécessité. C'est aussi votre constat ?
Beaucoup de personnes sont déjà retournées en Ukraine dans des villes bombardées comme la capitale qui est quand même aussi bombardée. Donc effectivement, on voit qu'après ce premier afflux massif, beaucoup de personnes sont déjà rentrées chez elles parce qu'elles n'arrivaient pas, par exemple, à bénéficier de certaines aides, y compris en France. Il y a eu des blocages administratifs, etc. Donc effectivement, on voit que plusieurs gouvernements jouent aujourd'hui avec ces sentiments anti-migration. Et c'est aussi le cas de la Pologne.
Quel rapport les exilés ukrainiens entretiennent-ils avec l'Ukraine ?
C'est un rapport fort, étroit. Il faut savoir que contrairement aux demandeurs d'asile, les personnes exilées d'Ukraine ont le droit de se rendre dans leur pays puisque ce ne sont pas des exilés politiques. Et donc, la plupart de ces personnes ont utilisé ce droit au moins une fois dans les 3 années qui se sont écoulées. Mais ces voyages sont quand même rares et douloureux. Il s'agit de séjours brefs, de quelques semaines pour régler des problèmes administratifs, rendre visite à des vieux parents ou assister à un enterrement. Et donc, il faut se rappeler que toutes ces familles ukrainiennes ont connu un deuil de guerre parmi leurs proches, leurs connaissances. Ce sont des personnes aussi qui vivent en fait à l'heure de la guerre. Plusieurs d'entre elles ont dans leur téléphone en fait une application qui permet de voir lorsque une alerte au bombardement est activée, parce qu'elles s'inquiètent pour leurs proches et elles restent encore souvent mentalement aussi dans leur pays. Ce sont aussi souvent des personnes endeuillées.
Merci Dorota Dakowska. Vous êtes professeure des universités agrégées de sciences politiques et membre du projet Exiles. Merci aussi à Aloïse Guérin pour la préparation.
C'est l'une des plus grandes affaires de pédocriminalité jamais jugée en France.
Le procès de Joël Le Squarnec, ex-chirurgien accusé de violences sexuelles sur près de 300 patients, s'ouvre en début d'après-midi. Procès organisé à Vannes devant la cour criminelle du Morbihan. La plupart des victimes étaient mineures au moment des faits. Un procès hors norme dont les enjeux dépassent la simple culpabilité de l'accusé, Florence Turme.
Un seul accusé dans le box, mais 299 victimes, identifiées par les gendarmes qui ont mené l'enquête à partir de la découverte en 2017 des carnets de Joël Le Squarnec, ces fichiers comme autant de journaux intimes dans lesquels le chirurgien notait la date, le nom, le prénom des enfants, filles et garçons confondus, associés à des détails cliniques sordides. Et elles seront nombreuses, ces victimes, à se présenter à l'ouverture de l'audience à 13h. La cour a prévu plus de 2 mois et demi pour les entendre, elles qui ont souvent appris des années après ce qu'elles avaient subi, compris des années plus tard les traumatismes enfouis. Un procès qui s'annonce très suivi sur le plan médiatique avec de 500 journalistes accrédités, un tiers de presse étrangère. Les autorités judiciaires ont mis en place un dispositif inspiré de celui des procès des viols de Mazan et des attentats du 13 novembre 2015 à Paris. En plus de la salle d'audience principale, plusieurs salles de retransmission sont ouvertes dans les anciens locaux de l'université, à la fois pour la presse et les parties civiles et le public, car ce procès ne se déroulera pas à huis clos, à quelques exceptions près, pour les victimes qui le demanderaient explicitement. Joël Le Squarnec, déjà condamné en 2015 à 15 ans de réclusion criminelle, encourt 20 ans. C'est la peine maximale prévue pour des viols aggravés. Mais au-delà de sa culpabilité, une autre question plane sur ce procès. La responsabilité des autorités de santé, mise en cause par de nombreuses associations, elle proteste d'ailleurs ce matin dans un rassemblement devant le palais de justice contre l'attitude et la passivité de l'ordre des médecins qui s'est constitué partie civile.
Au total, donc, près de 300 victimes potentielles recensées dans plusieurs régions de France, dans le Morbihan, mais aussi en Touraine, dans la ville de Loches, où l'ancien chirurgien a exercé pendant 11 ans dans les années 80 et 90. Amélie Lévesque fait partie de ces victimes. Aujourd'hui âgée de 43 ans, elle sera partie civile au procès. Les faits la concernant sont qualifiés de viol. Ils ont eu lieu lors d'une opération de l'appendicite en 1991. Pour elle, la honte doit changer de camp.
J'ai en effet décidé, j'avais le choix, de me mettre face aux accusés. Je voulais les regarder dans les yeux, qu'ils sachent que je suis là. Ce sont eux qui se sont imposés dans ma vie, et maintenant je veux m'imposer dans la leur. Montrer l'absolue horreur de ce qui s'est passé, donner à voir, détailler, sans rentrer dans le voyeurisme, sans rentrer dans l'indécence, tout en préservant ma dignité quand même un petit peu, parce que j'ai par exemple très longtemps, dans mes interventions médiatiques, refuser d'utiliser le terme torture me concernant. En fait, c'était parce que je voulais protéger mes enfants. Je voulais pas que mes enfants lisent dans le journal ou entendent à la radio « Papa, il a été torturé ». Bon, j'ai fait du travail avec mes proches et je pense qu'ils sont eux aussi désormais prêts à entendre certaines choses que je vais décrire. Décrire de façon très clinique, je pense. Parce qu'on est dans une enceinte judiciaire, c'est le bon endroit pour faire du médico-légal.
Et on écoute maintenant Amélie Lévesque qui fait partie donc des victimes de Joël Le Squarnec.
Je ne suis pas un porte-drapeau, je ne suis pas un étendard, je ne suis rien. Je ne suis qu'une victime parmi 300 autres, au moins 300 autres. J'ai juste eu la chance, je pense, d'être très bien entourée, d'avoir une thérapeute en or, d'avoir une famille qui est très aimante et qui m'épaule beaucoup, qui sont mes béquilles et qui m'ont permis aussi de m'exprimer librement et de pouvoir faire ce chemin-là qui a été aussi très thérapeutique pour moi malgré tout. On sent quand même que la honte pèse encore sur les victimes, qu'on a du mal à s'exprimer, qu'on a du mal à assumer, alors que finalement on n'a rien à assumer, on a subi. Après, voilà, on n'a pas tous les mêmes chances dans la vie, on n'a pas tous les mêmes armes, donc je ne juge personne, mais ce serait bien que les victimes aient moins honte et qu'on puisse tous s'exprimer librement. Moi, je sais que la fin de ma thérapie, ce sera le jugement, ça c'est sûr.
Amélie Lévesque, victime de Joël Le Squarnec, témoignage recueilli par Florence Sturm. À Marseille, c'est un réseau de blanchiment international qui est en procès également aujourd'hui. La bande criminelle corse dite du Petit Bar est jugée cet après-midi. Connue pour trafic de drogue, extorsion et assassinat, ce clan est accusé d'avoir lavé des dizaines de millions d'euros d'argent sale via Hong Kong, Singapour, le Luxembourg ou la Suisse. 24 prévenus sont concernés par cette affaire. La météo cet après-midi. Midi, un temps nuageux avec quelques averses sur une grande moitié nord du pays. Le soleil sera présent sur la pointe du Cotentin et sur celle de la Bretagne. Les températures oscillent entre 12 et 18 degrés du nord au sud. Ce journal a été préparé avec Brice Garcia. Prochain journal 18h, ça sera avec Aurélie Kiefer.